Alors dans cet enregistrement, on va reprendre un petit peu les basiques, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me disent bah voilà, je veux lancer mon entreprise, par où je commence, qu'est-ce que je fais, je vais lancer une start-up, je veux faire mon plan marketing, je veux lancer un produit. Et en fait, bah, il sait prendre un petit peu du mauvais côté, en fait, la mauvaise manière. Il faut pas commencer tout simplement à se dire ok, comment quand je lance mon produit. Il faut partir déjà au départ, et avant de passer du temps, avant de concevoir un produit, il faut déjà un petit peu vérifier qu'il correspond à un marché. Et ça, c'est vraiment le plus important, parce que parfois on peut perdre beaucoup de temps à sortir un produit et puis en fait se rendre compte qu'il ne correspond pas à un marché. Et là, moi, je vois beaucoup de startups comme ça qui se lancent, qui disent ouais, j'ai l'idée du siècle, et en fait c'est une idée qui correspond à un besoin qui n'est pas fiable, solvable. À chaque fois qu'il faut qu'il y ait un besoin en fait qui est urgent, c'est-à-dire que les gens aient vraiment besoin d'avoir ça, qu'il soit important, c'est-à-dire que ça change vraiment quelque chose dans leur vie, et que ça soit solvable, c'est-à-dire qu'il soit prêt à payer. Je rappelle toujours l'idée, hein. Si par exemple vous vous adressez à des demandeurs d'emploi, vous aurez des difficultés parce que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Ou alors parfois il vaut mieux s'adresser, comme le font certains, à des cadres qui sont en reconversion. Là il y a un petit peu d'argent parce que parfois il y a des aides au départ ou des choses comme ça. Donc en fait, il faut savoir bien positionner son offre. Alors parfois aussi, je donnerai l'exemple d'un de mes amis qui avait lancé une start-up qui était concurrent de Toc Toc Toc, qui était de la livraison par des coursiers freelance, entre guillemets, en vraiment peu de temps sur Paris. Et ben, finalement, il s'est rendu compte, après avoir travaillé là-dessus pendant plusieurs mois, que finalement c'était pas rentable parce que il y avait trop peu de personnes qui étaient intéressées par cette livraison sur le papier, de se dire tiens, j'ai envie de me faire livrer un McDo, j'ai envie de me faire livrer un resto, ou j'ai envie de quelqu'un aller faire mes courses pour moi, ou me chercher une pharmacie ou quelque chose comme ça. Ça paraissait intéressant, vous commandez, quelqu'un va le chercher, il a une carte de crédit prépayée et hop, il vous livre. Le problème c'est que sur le papier c'est intéressant, mais dans la vraie vie en fait, qui a besoin de ça? Et c'est vrai que quand on m'avait demandé de tester le service, je me suis dit bah ouais, mais ça ne sert à rien. Et pourtant, tout le service marchait, tout le système, tout le logiciel, tout était vraiment carré. Mais en fait, il y avait une chose qui était importante, c'est ce problème de besoin solvable. En fait, il faut véritablement qu'il y ait un produit, mais il faut aussi qu'il y ait un marché. Un marché, c'est-à-dire que c'est des gens qui soient prêts à payer et payer un certain prix. Et c'est pour ça que parfois, il vaut mieux avoir un produit qui correspond à un petit marché, parce que comme ça on va pouvoir vendre cher et rentabiliser son temps et son argent, que d'essayer d'aller à la recherche d'un produit qui va répondre à un tout petit marché et qui finalement va pas rapporter grand chose. Donc voilà, donc ça c'est vraiment essentiel de se dire ok, quel est mon produit, quel est mon marché, ensuite qui est mon client type. C'est ce que j'appelle moi la méthode des personas. Avant de se dire je veux vendre à tout le monde, mon produit s'adresse à tout le monde, il faut déjà que ça s'adresse à une personne en particulier. Là encore j'ai un autre exemple, une amie en fait qui développeuse, son mari aussi est développeur, et ils se sont dit waouh, on a une techno super intéressante qu'on a découvert, qui est en open source, qui permet en fait de faire de la visioconférence, et nous on sait en fait que les personnes âgées elles ont besoin de pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants et tout ça, parce qu'ils ne savent pas trop comment ça marche, blablabla. Et donc on se dit, on va lancer un système de visioconférence pour les personnes âgées, un truc simple. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, les personnes âgées, elles n'étaient pas intéressées. Ils ont essayé de faire tester le produit avec différentes personnes, mais les gens disaient, moi, j'en ai pas besoin, j'utilise d'autres choses, j'utilise Skype, j'utilise Facebook, j'utilise autre chose. Et les personnes âgées, forcément, c'était un peu trop complexe pour eux, puis ils n'avaient pas de tablette, etc. Donc, c'est important de vérifier son marché comme ça, avec, par exemple, les personas, comme je le disais. Le persona, en fait, c'est tout simplement personnifier son client avec un client type. C'est par exemple Michel, il a 53 ans, il est dans tel domaine d'activité, etc. Ses problèmes actuellement, c'est ça, ça et ça. Ses besoins, c'est ça. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment on peut l'aider, etc. etc. Des citations. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça permet véritablement de personnaliser son client, personnifier son client. Et donc quand on connaît en fait comme ça son client type, on arrive tout de suite beaucoup mieux à savoir à qui on s'adresse, et ça permet à tout le monde de dire ok, ben, mon client c'est ça, et de ne pas se disperser, et surtout après de vérifier que c'est bien la réalité, parce que parfois, surtout quand on est dans une entreprise établie, on a des idées sur le client type et finalement ça se passe pas bien, c'est pas ça la cible qui va être séduite. On l'a vu aussi avec la Twingo qui a été un gros succès, mais au départ en fait la Twingo c'était surtout une voiture qui a été conçue pour les jeunes, et finalement on s'est rendu compte que c'est plutôt les moins jeunes qui achetaient la Twingo. Donc parfois on pense à un marché et finalement c'est pas le bon. Donc on peut toujours se retourner et s'adapter, mais c'est quand même mieux d'avoir pensé en amont au bon produit. Alors c'est pour ça aussi que parfois il vaut mieux pas réinventer la roue. Il y a certaines personnes comme ça qui se disent ben voilà, il n'y a personne sur le marché, donc je vais être numéro 1, je vais être le seul. Ben, le problème c'est que parfois ça marche pas. Il vaut mieux parfois être sur un marché qui est concurrentiel et se différencier, soit en fait par quelque chose de beaucoup plus métier, beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. Ou alors s'adresser à un besoin particulier, ou être complémentaire à des solutions qui existent, que de vouloir en fait être en frontal et concurrencer directement des solutions. Ça c'est par exemple, on va dire dans le domaine des logiciels de gestion, de comptabilité, il y a quelques leaders qui existent, mais au lieu en fait de dire je vais concurrencer des solutions qui ont 15 ans d'âge, 20 ans d'âge, le mieux c'est d'aller essayer de s'adresser à un micro-segment et s'adresser un petit peu mieux. Ou alors voir ce qui ne va pas sur un marché et aller s'adresser à ce marché-là. Je vous donnerai également un exemple. Là, en fait, c'était il y a quelques années, une société en fait qui était spécialisée dans les chats, qui en fait s'est dit, on va lancer des chats professionnels pour les entreprises, etc. etc. Bah, en fait, l'entreprise a un petit peu vivoté et s'est pas trop développée parce que tout simplement, il n'y avait pas de marché qui était prêt en fait à installer un chat dans son entreprise. Pas grand monde, c'est un petit peu en avance et donc il fallait un petit peu attendre. Faut pas avoir raison trop tôt. Donc en fait, il vaut mieux essayer de se dire, est-ce que je peux pas me pluguer sur une solution? Et il y a tous des écosystèmes comme ça qui existent, par exemple tout ce qui est CRM, où il y a en fait la possibilité en fait de vendre un plugin qui est complémentaire. On le voit avec des solutions comme par exemple Sparklearn, comme Bypass, etc., etc., qui eux en fait se mettent en complément de solutions de CRM en proposant des add-ons en plus qui viennent compléter ce qui manque en fait dans une solution. Et on voit souvent comme ça des add-ons qui sont rachetés par des sociétés et qui en fait permettent à leurs propriétaires de s'en sortir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, que vous savez en fait s'il y a un vrai marché, qui est votre client, comment vous allez pouvoir vous différencier, vous améliorer par rapport aux concurrents, vous allez sortir votre USP, votre Unique Selling Proposition. C'est-à-dire dire en quoi en fait vous êtes différent des autres. Encore une fois, si vous n'êtes pas capable de dire tout de suite ce qui vous fait une différence avec le 1 et 0, c'est-à-dire que c'est pas je suis un peu plus simple, ou on est plus facile à utiliser, ou on est moins cher. Ça, c'est pas pour moi une USP, et pour moi, c'est pas une différenciation. Si vous dites on est plus ergonomique, on est plus simple, on est plus facile à utiliser, non, c'est faux, parce qu'en fait, les gens vont pas changer juste pour ça. Il faut que ça soit vraiment clivant, il faut que ça soit 0 ou 1, que ce soit binaire. Et en fait, si vous êtes une marque, en fait, suiveuse, on appelle ça en anglais une marque Me Too, forcément, vous n'allez pas vous distinguer, vous aurez du mal à vous comparer par rapport aux autres. Et c'est pour ça en fait justement qu'il faut mettre en place en fait une marque forte. Plus vous serez en fait dans un secteur d'activité qui est concurrentiel, où il y a en fait beaucoup de monde, ou si vous avez peu de moyens par rapport à des grands mastodontes, il faut absolument travailler votre marque, parce qu'en fait vous allez pouvoir mettre dans la marque de l'émotion, vous allez pouvoir mettre du subjectif, vous allez pouvoir mettre du service, chose qui n'est pas possible de faire en fait si on a une marque faible. Si on a une marque faible et qu'on se bat uniquement sur des produits, si on se bat uniquement sur des tarifs, et on n'arrivera pas, parce qu'en fait à chaque fois il y aura quelqu'un qui sera moins cher, ou alors ce sera toujours une lutte. Tandis que si on rajoute du subjectif, on rajoute du service, à ce moment-là on est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui ne vendent pas en fait, qui ont un premium. Alors il y a deux types de marques. Il y a les marques qui ont un premium. Par exemple, dans le domaine de logiciels de comptabilité et de gestion, Sage a un premium. premium parce qu'on sait que c'est la marque numéro 1. Pareil dans le RP, SAP, ils ont un premium parce qu'en fait on est prêt à payer plus cher parce que c'est la marque, parce qu'on est rassuré, parce qu'on se dit bah tiens tout le monde le fait, donc si j'achète telle marque, bah, je risque pas de me tromper. C'est comme acheter un iPhone, on ne prendra jamais de risque et donc on se dira bah oui je prendrai cette marque là. Tandis que ben, une marque low cost, on aura un risque. Et donc cette marque-là va être toujours un petit peu difficile à acheter parce que ben, ce n'est pas le leader. On voit avec tous les smartphones low cost qui ont un peu de mal un petit peu à convaincre. Parce que les gens se disent ouais mais c'est pas aussi solide, c'est pas assez ceci, ben, c'est cela. Alors que souvent, c'est quand même pas trop mal. Donc en fait, il faut trouver une unique selling proposition qui est différente. Par exemple, Gary Vaynerchuk, qui est assez connu dans le domaine du web, lui en fait, sa devise c'est la même chose que les autres, mais moins cher. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu l'inverse que je viens de dire il y a deux secondes en disant qu'il ne faut pas se battre sur le prix, mais plus sur les fonctions. Mais en fait, lui, il fait les deux. Il se dit, moi, de toute façon, je fais aussi bien que tous les plus gros, mais je fais ça beaucoup mieux et beaucoup, enfin, surtout beaucoup moins cher. Donc en fait, c'est sa devise. Votre USP, c'est en quoi vous êtes différent, pourquoi il faut commander chez vous plutôt qu'un autre. Ça, l'USP, c'est vraiment important. Ça vous permet en fait de dire, ben voilà, grosso modo, ça dit, je suis telle entreprise, je réponds à tel besoin, ma cible, en fait, c'est telle chose, et par rapport à mes concurrents, je suis différent, et en plus, je vous offre tel bonus. Donc c'est comme ça en fait qu'on définit l'USP. Par exemple pour conseil marketing, l'USP c'est conseilmarketing.fr, c'est tous les jours des conseils gratuits pour trouver des prospects et fidéliser ses clients. Au contraire de tous les autres blogs sur le marketing, conseil marketing vous offre en fait des vidéos, des e-books gratuits quasiment tous les mois et vous offre des formations. Voilà, donc c'est un petit peu l'USP, pourquoi en fait l'entreprise est différente. Et à la fin, généralement, on finit par un petit call to action en disant « Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'organise un web séminaire gratuit le 22 juin, le 22 juin au soir. » Donc voilà, c'est pour se dire en fait qu'il y a ces éléments-là. Après aussi, vous savez qu'il y a toujours quand vous écoutez vos clients, dans le discours en fait dont ils vous parlent, il y a toujours des trucs en fait qui leur vont pas. C'est ce que j'appelle en fait reduce pain et increase gain. C'est en fait le meilleur moyen de pouvoir inciter les gens à commander. En fait, c'est vraiment travailler là-dessus. Increase pain, reduce gain et réduire en fait tout ce qui est les frictions à l'achat. C'est-à-dire que comment vous allez convaincre les gens de commander en leur disant bah oui, moi je fais ça, 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 ça. Et en plus, je vous propose de faire ça, ça et ça et ça. Et donc vous n'avez aucun risque à commander parce que je vous fais une installation ou je vous garantis l'installation en 3 jours ou je vous remplis le matériel. Donc en fait le but en fait c'est de réduire tout ce qui est frein à l'achat, psychologique, matériel, etc., etc. Et au contraire, d'aller fluidifier l'acte d'achat en indiquant par exemple des outils de calcul de retour sur investissement, en mettant par exemple des commentaires de clients, en mettant des logos de marques connues, des logos de syndicats, enfin bref, vous avez fait en fait toutes les choses qui permettent de justifier de manière rationnelle ou émotionnelle votre achat. Voilà. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à construire un petit peu votre argumentaire, entre guillemets. Alors, bien entendu, l'argumentaire, vous allez le mettre en mode bénéfice, vous n'allez pas le mettre en mode fonctionnel. Et en fait, souvent, le but, c'est de transformer un argument fonctionnel en argument, entre guillemets, bénéfice. Par exemple, si vous dites les smartphones Samsung, ont un anti un waterproof, donc en fait ça vous permet de vous avez dire au lieu de dire voilà iPhone Samsung waterproof, puis voilà le Samsung sont waterproof. Par exemple, si vous partez actuellement en vacances, bah, vous allez pouvoir en fait laisser tomber votre téléphone dans le sable ou pouvoir l'emmener à la plage sans avoir peur, au contraire de nombreuses marques. Et là, vous avez en fait un levier. Alors, assurez-vous toujours que ces leviers-là sont véritablement en phase avec les besoins des clients. Je me souviendrai toujours d'une marque de chocolat qui faisait de la pub à la télé il y a quelques années de ça pour tout simplement le fait que leur barre était facile à ouvrir, leur emballage était vraiment simple. Or en fait c'est un argument qui n'est pas décisif pour le client. Il faut véritablement s'assurer que c'est décisif. Si vous argumentez sur quelque chose qui n'est pas vraiment critère de décision et qui est vraiment important sur le client, ça sert à rien parce qu'en fait c'est pas là que vous allez le motiver. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est décliner vos communications et vos publicités avec ces différents arguments et les tester. Par exemple, vous pouvez tester via une page Google AdWords ou une page Facebook Ads. Donc ce que vous faites, une page de publicité, c'est-à-dire que vous allez faire une landing page sur InstaPage, sur un fichier WordPress, etc. etc. Et tout simplement, vous allez mettre en avant votre produit, vous allez mettre en avant ses caractéristiques, etc. etc. Et vous allez tester vos arguments, vous allez tester les noms de produits, vous allez tester les prix, et tout de suite, en faisant quelques publicités, alors il faut dépenser 100-200 euros, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais au moins vous verrez tout de suite ce qui convertit, ce qui ne convertit pas. Alors bien sûr, vous avez des modèles de landing page qui existent toujours, le classique, avec en haut la petite vidéo, ensuite à droite les petits argumentaires, et ensuite le call to action, appel à action, je vous commande, etc. etc. Alors, ce qui est également important de faire, et ça c'est ce que je vois souvent chez les petites marques, même des fois sur conseil marketing, c'est d'avoir en fait une marque, donc comme j'ai dit, qui est forte, mais une marque qui soit consistante et cohérente dans tous les documents. Parce qu'en fait, parfois, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une plaquette avec telle couleur, tel logo, ensuite on a un site internet avec telle couleur, tel logo. Il faut essayer d'avoir une cohérence, parce que les problèmes, c'est que parfois les gens ont des dissonances et les clients se posent des questions. Est-ce que c'est bien ou pas, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas également, une fois que vous avez commencé à réfléchir à tout ça, et même avant d'aller vendre votre produit, c'est de réfléchir au parcours client et au cycle de vie du client. Le parcours client, c'est en fait, le client, il vient d'où ? Quels sont les carrefours d'audience ? Où est-ce qu'il est actuellement ? Et comment, en fait, je peux le toucher ? Et quelles sont les méthodes les plus efficaces ? Avec, bien sûr, les niveaux d'influence, les influenceurs de niveau 1, 2, 3, 4. 1, c'est ceux qui sont impliqués dans l'achat et qui touchent directement le client. Les deux, c'est en fait c'est ceux qui sont impliqués dans l'achat mais qui ne touchent pas directement le client, etc. etc. Par exemple, un médecin est prescripteur, mais il n'est pas impliqué directement dans l'achat. Un pharmacien est un peu plus impliqué dans l'achat d'un médicament. Donc en fait, quand vous vendez des médicaments, vous essayez en fait d'aller préconiser ça. On le voit par exemple dans le domaine des crèches, où généralement quand on a une marque de couche qui est dans la crèche, finalement on se dit tiens, je vais prendre celle-là plutôt qu'une autre. Donc en fait, on essaie de trouver ces prescripteurs, ces gens en fait qui peuvent proposer d'acheter. Par exemple, dans le domaine de logiciels de gestion, encore une fois, c'est l'expert comptable qui est un prescripteur. Parce que lui, il est impliqué dans la décision d'achat et il est en contact direct avec le client. Et en plus, le choix du produit a un impact direct sur son business. Donc ça, c'est le plus gros prescripteur, c'est le plus important, parce que c'est lui qu'il faut convaincre en priorité. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi une publicité d'une grande marque d'huile, d'huile d'olive, vraiment très haut de gamme, à une quinzaine ou vingtaine d'euros de 2 000 litres ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont décidé de ne pas faire trop de publicité parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec des grands chefs, et leur but à eux, c'est d'être en fait référencés chez les grands chefs qui ont des grandes tables et qui sont connus, et de leur proposer leurs produits à des prix cassés et même des produits à leur propre marque, c'est-à-dire que le chef peut avoir sa propre huile d'olive avec son nom, avec sa bouteille, etc. etc. Et en échange de quoi, en fait, bien sûr, il présente le produit dans son magasin, dans son restaurant plutôt, et s'il est présent dans les médias, il présente également dans les médias. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Après, on peut aussi imaginer, regarder quelles sont les stratégies utilisées par vos concurrents. Parce que généralement, quand on a une petite marque, une petite entreprise, on va essayer de voir ce qui se passe de plus intéressant ailleurs. Alors donc on regarde ses concurrents, qu'est-ce qu'ils font, comment on peut se différencier. Le but c'est pas de copier, à moins d'avoir une stratégie, ce que j'appelle donc MeToo, le suiveur, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire la même chose que les autres, mais d'essayer d'avoir quelque chose qui soit quand même un peu plus différent, se différencier. Quand on est une petite marque, au contraire, il faut casser les codes. Si tout le monde communique d'une manière, vous êtes une petite marque, vous devez communiquer de manière totalement différente sur un créneau ou quelque chose qui a vraiment de l'importance pour les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors après, bien sûr, il faut aussi vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre actualité sans trop y passer de temps. Moi, à chaque fois, j'essaye de suivre ce qui se passe dans mon secteur, mais je ne vais pas y passer des heures et des heures parce que faut que je produise, faut que je fasse des choses. Donc essayez de limiter aussi le temps que vous consacrez à tous ces éléments-là.